Grug Streetcast, épisode de je sais plus combien. Bonjour, ça, voilà, je suis toujours en direct des quais de Saône. Voilà, il fait beau, il y a des nuages, c'est légèrement le printemps. Il commence à y avoir 2-3 petits bourgeons sur les feuilles. Et j'ai oublié le numéro de l'épisode. Je ne sais pas si c'est le 26, le 27, le 28, c'est quelque part par là. J'ai vu que c'était un débat qui avait lieu en ce moment dans le monde du podcast, suite, je crois, à une décision d'Apple qui a fait marche arrière peut-être, qui fait qu'elle ne voulait plus qu'il y ait les numéros des podcasts dans les titres des épisodes. Alors voilà, alors moi je le marque, je fais toujours SC et le numéro. Ça me permet déjà de moi de m'y repérer du premier coup d'œil. C'est assez pratique. Et ensuite moi j'aime bien, c'est comme sur les blogs, sur internet, moi j'aime bien qu'il y ait la date des articles. Voilà, avant j'avais une page où je marquais chaque fois la date où je l'avais modifiée, parce que bon, c'était ma page avec des liens, etc. Sur mon site que j'ai depuis 25 ans chez Free, grégoire.berquin.free.fr. Donc c'est pratique, c'était la page de base qui allait avec mon adresse mail, première adresse chez Free, qui était même pas liée, je crois, à un abonnement. Voilà. Toujours est-il qu'il y a quelques mégas. Mais bon, voilà. Donc j'ai toujours une petite page avec des liens. Voilà, c'est pas mon site principal. Mais voilà. Donc, mais j'aime bien dans les articles de blog qui est la date, savoir quand ça a été écrit, quand ça a été fait. C'est assez utile. Je trouve ça assez frustrant de lire un article et de s'apercevoir qu'il a 6-7 ans. Surtout dès qu'on aborde un peu la tech, etc. Ça dépasse assez vite. Voilà, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'une interview que j'ai lue sur le site Actua BD, qui est un des sites de critique BD. Alors, des fois, dans le monde du milieu de la BD, on râle un peu parce que c'est orienté sur des types de BD, des trucs comme ça, mais bon, c'est quand même un site qui existe, qui est important dans le monde de la BD. Et voilà. Donc là, c'est rien à voir. C'est une interview très intéressante d'un auteur, d'un ex-auteur, je sais pas comment je dois dire, qui s'appelle Luc Warnant. Alors, je sais pas si ça vous parle. Déjà, il faut suivre un petit peu la BD. Luc Warnant, c'est un auteur qui a sévi à la fin des années 70, début des années 80, dans un style complètement franco-belge, genre parfois limite on dirait du franquin, et qui a été en fait à l'origine, qui a créé la série, au dessin, la série Soda. Voilà, Soda, c'est ça parle peut-être un peu plus. Il a fait les deux premiers albums en fait avant de passer la main. Il a fait, c'est dont le deuxième qui est absolument un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée que je vous recommande. C'est chez Dupuis, ça s'appelle Soda, et c'est Lettre à Satan. Les deux premiers, c'est vraiment c'est énorme. Donc c'est un flic new-yorkais qui se fait passer pour un pasteur auprès de sa mère. Voilà, il habite avec sa mère, qui croit qu'il est pasteur, et en fait, il est flic. Voilà, donc les deux premiers épisodes sont vraiment géniaux. Les suivants sont pas mal aussi. C'est scénarisé par Tom, du duo Tom et Jean-Ry, celui qui avait, pendant une époque, faisait Spirou, qui scénarise le petit Spirou, mais qui a aussi scénarisé des tas d'autres choses, des tas d'autres polars et des trucs comme ça. En fait, ça vient d'une envie à lui qui voulait, en même temps que Spirou à New York, c'était voilà, une envie de New York, et donc ça parle de New York. Voilà, donc les deux premiers. Après, il y en a une dizaine ou un peu plus qui sont dessinés par Gazzotti. Le style de dessin change un peu, mais ça reste une très très bonne série. C'est vraiment très chouette. Et là, récemment, ça s'est arrêté pendant un moment. Et il y a un nouveau dessinateur qui a fait un tome et qui a l'air aussi assez lent. Qui serait à la moitié du tome 2, du deuxième tome, parce que c'est une c'est un diptyque. Et voilà, qui s'appelle Dan et qui était aussi assistant de Tom et Jean-Ry, ceux qui ont dessiné Spirou dans les années 80. Le truc, c'est que Luc Warnant, donc, il a fait ses deux albums. C'était un dessinateur assez, il est toujours vivant, hein. C'est un dessinateur absolument génial, mais qui a abandonné la bande dessinée. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a trouvé, au début du troisième tome de Soda qu'il était en train de dessiner, voilà, il a abandonné, il en avait marre de bosser comme un con tout seul. Comme un con, c'est-à-dire, il aimait ça, hein. C'est ce qu'il explique, c'est que c'est un travail qui est extrêmement comment dire, voilà, qui est extrêmement solitaire, qui est extrêmement lent. Et donc voilà, donc Luc Warnant, voilà, au début, donc il avait une autre série avant qui a dû être rééditée chez un petit éditeur, qui n'est pas très connu, son gros succès c'est vraiment Soda. Et voilà, il a un dessin vraiment à la Franquin, au point même que Franquin lui aurait dit que si un jour, si Gaston devait perdurer après lui, ce que Franquin ne souhaitait pas, enfin, visiblement ce que Franquin ne souhaitait pas, et eh bien ça serait lui qui reprendrait, parce qu'effectivement dans ces trucs, Timothy Owang, je crois que ça s'appelait, ça c'est la série Luc Warnant, voilà, il y a des personnages comme ça, un peu grands, un peu dégingandés. C'est vrai que c'est celui qui, dans l'attitude et dans le dernier Gaston, enfin voilà, le style de Gaston du début des années 80, c'est vrai que c'est lui qui était le plus proche, peut-être plus que Tom et Jean-Ry même, qui était sur un, qui était assez proche aussi, mais plus dans le dynamisme et plus rapide. Pas Tom et Jean-Ry, qu'est-ce que c'est, Yannick Conrad. Voilà. Mais Luc Warnant, c'était plus vraiment les petits traits, il y avait plus ce côté laborieux, enfin laborieux, oui, laborieux, de, c'est-à-dire avec beaucoup de petits traits, un peu comment, voilà, de Franquin, que Franquin avait à cette période-là, la période des années 70, où il passait des heures à faire des aplats de noir au rotring, trait par trait. Voilà, donc il y a ça un peu dans le dessin de Luc Warnant. Mais voilà, cette interview est intéressante surtout sur le côté, sur le fait que voilà, qu'il y a des gens qui, alors qu'ils sont dans un truc qui commence vraiment à marcher, parce que Soda ça marchait bien, voilà, c'est un fort potentiel, mais ils décident de tout abandonner pour aller faire plutôt de la 3D, un truc plutôt collectif. Donc faire de la 3D dans les années 80, c'était, ça devait être une belle aventure aussi, mais voilà, c'était une aventure collective et c'était pas... voilà, donc la BD c'est un métier de rêve, hein, attention, on en rêve. C'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de temps. Je pense que si j'ai aimé cette interview, c'est parce que ça fait écho à des trucs où en fait chaque fois qu'on a fini un album ou chaque fois qu'on galère un peu, on fait après ça j'arrête la BD. Ça c'est un des grands classiques de notre métier. C'est un métier qu'on adore, qu'on fait par passion, qui nous demande, qui nous fait bosser 70 heures par semaine, mais qu'on passe notre temps à dire qu'on va l'arrêter. Finalement, il y a assez peu de gens qui le font, parce que plusieurs autres personnes ont dit qu'ils allaient arrêter parce que voilà, c'est, financièrement c'est pas toujours très rentable, et finalement ils y reviennent toujours un petit peu, alors parfois pas à temps complet, mais voilà. Et quand on a un dessin exigeant, même comme ça très franco-belge, très rond, qui peut paraître facile mais qui parfois est très très exigeant, des dessinateurs comme Thébault, c'est Thébault, c'est celui qui fait avec Zep, super, merde, comment ça s'appelle, super, j'ai des trous, bref, voilà, par exemple, eh ben, c'est un dessin qui a l'air très simple et qui en fait est très exigeant, sur lequel il passe des heures. Luc Warnant, justement, dans l'interview, il raconte que à un moment, Franquin lui avait proposé de venir bosser avec lui sur un projet de je sais plus quoi, et en fait qu'il avait refusé parce qu'il était déjà trop laborieux et trop lent et qu'il n'avait pas le temps, pouvait pas, et que dire non à Franquin c'était quand même une déchirure, parce que c'est quand même dire non à ce mec qu'il admire le plus au monde. Et voilà, et qui lui disait que bah, tu sais que c'était compliqué pour lui, le dessin c'est laborieux. Et en fait Franquin lui disait, mais qu'est-ce que tu crois, pour moi aussi c'est laborieux le dessin. Et voilà, c'est même sur des dessins comme ça qui se lisent vite, très franco-belge, ça peut demander parfois plus de travail que sur d'autres dessins. Je passe sous un pont, petit intermède musical, une trompette. Le côté bien sympathique de Lyon et des quais de Saône. Voilà, il y a des musiciens sur les quais qui jouent. Là, c'est une trompette. Parfois, j'ai un saxophoniste un peu en face de chez moi, de l'autre côté de la Saône. Voilà, mais donc cette interview, je vous invite à aller la lire sur Actua BD et surtout à découvrir les deux tomes de Soda si vous ne les connaissez pas. Voilà, donc c'est un épisode de Streetcast, parce que je m'aperçois que ça fait 10 jours ou 15 jours que j'en ai pas fait. Voilà, j'ai eu des trucs un peu familiaux qui ont fait que j'ai eu plein d'autres choses à faire et que maintenant je suis hyper à la bourre avec plein de planches de BD à faire. Donc je vous en reparlerai de tout ça. Je vous remercie de l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @grug. Sur ma chaîne YouTube, ça va être Grug ou Grugby, je sais jamais. Quoi d'autre? Sur mon site, grug.be. Voilà, c'est un blog, mais de là vous pouvez trouver tous les liens. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Twitter, là j'en ai eu un ou deux qui m'ont fait hyper plaisir. Ça fait toujours hyper plaisir en fait de voilà un petit message, un petit. Voilà, donc je sais qu'il y a au moins deux personnes qui apprécient ce streetcast et ça déjà voilà, ça me fait très plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un streetcast un peu mieux construit. Celui-là, il était en impro. J'espère que le son est bon. À la semaine prochaine. Heureusement que j'ai dit que je faisais court.